Écoutez, je vous le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, on a connu une situation malheureuse là, dans un palais de justice de la province récemment où il y a un homme qui a été sauvagement attaqué en plein palais de justice. Ça soulève encore une fois, parce que c'est pas d'hier qu'on soulève ces questions de sécurité dans les palais de justice. On a d'ailleurs connu un cas particulier nous-mêmes du côté du palais de justice de Maniwaki il y a quelques années. Donc pour jaser de cette situation-là et des mesures qui sont réclamées, on a au bout du fil le président du syndicat des constables spéciaux du Québec pour en discuter. Monsieur Franck Perrelès, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation parce que c'est un sujet qui est brûlant d'actualité et qui résonne fortement chez nous. On vous avait même parlé à ce moment-là, il y a quelques années, lorsqu'il y avait une altercation qui avait dégénéré au palais de justice de Maniwaki. Même à ce moment-là, on demandait est-ce qu'il y a des mesures de mise en place. Plusieurs années plus tard, il n'y a pas beaucoup de chemin, j'ai l'impression, qui a été fait à ce niveau-là. Là.
Malheureusement, rien, monsieur. Comme on dit souvent, tout ce qui traîne finit par se salir et on en a eu le résultat de ce qui est arrivé à Longueuil.
Et rappelez-nous, pour les gens qui sont peut-être moins au fait, qu'est-ce qui s'est produit à Longueuil? Dans quelles circonstances ça s'est produit?
L'effet, c'est qu'un interprète était dans un cubicule en train de travailler sur un document. J'imagine un document à lui. On ne connaît pas la nature du document, mais travailler dans un cubicule tranquille. Et un individu cherchait à parler à un procureur. C'est l'information que nous avons sur que l'enquête est encore complètement terminée, mais... Ça, c'est l'information préliminaire que nous avons. Les informations préliminaires que nous avons, c'est qu'un individu cherchait à parler à quelqu'un, un procureur, à quelqu'un du système judiciaire. Et c'est ce qu'on a su. Et que par la suite, il est tombé par hasard. Comme je veux dire, la victime était au mauvais endroit, au mauvais moment. L'individu, ce que l'on pense, c'est que l'individu a cru que l'interprète en question était un avocat, un procureur. Et ce qu'on a su, c'est qu'il a poignardé à plusieurs reprises cet individu. Il est rentré dans le cubicule, il l'a attaqué sauvagement en le poignardant à plusieurs reprises.
Et tout ça, ben c'est justement, ça ramène dans l'actualité les questions de sécurité. Vous, vous y connaissez plus que nous à ce niveau-là. C'est pas la première fois que ça se produit. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi les lacunes à ce niveau-là? Parce qu'on a entendu plus de constables, on a entendu des barrières là, pour des détecteurs de métal, entre autres. J'imagine que les mesures, il y en a plusieurs qui pourraient être mises de l'avant. Mais qu'est-ce qu'on réclame de votre part?
Ce que nous réclamons depuis de plusieurs années, c'est très simple. C'est que si les mesures que je vais vous parler dans quelques secondes avaient été mises en place à Longueuil, on aurait évité cet événement malheureux parce qu'on aurait intercepté l'individu à l'entrée du palais. C'est-à-dire, ce que nous réclamons, c'est un équipement de pointe, comme on trouve un peu partout maintenant dans les aéroports. Il y a plusieurs endroits, même à l'Assemblée nationale, il y a cet équipement-là pour les élus, tout ça. On appelle ça un détecteur de rayon X, donc une machine à rayon X, qui peut voir à travers les vêtements, peut voir à travers les sacs, n'importe quoi, une valise, il peut tout voir. Ainsi qu'un détecteur on appelle ça un détecteur de métal, un portillon. Détecteur de métal. C'est comme un peu aux aéroports, tu rentres dans ce détecteur-là, dans ce portillon, cette porte d'entrée-là, et on peut savoir tout de suite s'il y a un métal sur vous, que vous avez sur vous. Donc, on va demander aux gens de tout vider leur poche, mettre tout ça sur, vous savez, le convoyeur qui va venir au rayon X. Quand ça va, comme aux aéroports, et on va demander à la personne de rentrer. Si ça ne sonne pas, c'est qu'elle n'a pas de métal sur elle. Si ça sonne, ça va nous indiquer où exactement le métal se trouve sur cette personne-là. Donc, on va pouvoir investiguer un peu plus loin.
La faisabilité de tout ça, parce que, bon, c'est des mesures supplémentaires, ça demande du financement supplémentaire, de la main-d'œuvre supplémentaire. C'est quelque chose qui pourrait se faire rapidement, selon vous, ou qui demanderait quand même une certaine adaptation?
Ce qu'on a demandé au ministre, c'est un sorte d'échéancier. Il pourrait dire, bon, ben, on va prendre, admettons, les 15, ou ben, il y a à peu près une quarantaine de palais de justice dans la province. On pourrait prendre une quinzaine ou une vingtaine des palais les plus achalandés, où le volume judiciaire est assez élevé. Et on pourrait y aller comme un échéancier. À chaque année, on en ferait, mettons, deux. Donc, deux palais seraient faits afin de munir ces palais de ces équipements-là. Et on avancerait à chaque année avec deux. Pourquoi? Parce que le coût, selon nous, versus le coût en vie humaine, je pense que rien ne vaut un montant investi par le ministère de la Sécurité publique ou de la Justice. On évalue à quelques millions seulement l'implantation de ces machines dans les palais de justice. On en décompte à peu près une quarantaine au Québec. Donc, quelques millions, je veux dire, avec, oui, bien sûr, embaucher, comme est-ce qu'il manque de techniciens, il manque, je veux dire, de constats spéciaux présentement. Donc, ça aide pas. Mais avec l'embauche que le ministre a annoncé dernièrement de 144 nouveaux constables, avec cet équipement de pointe, je pense qu'on rehausse considérablement la sécurité dans les palais de justice.
Puis on parle des palais de justice, puis moi j'y vais régulièrement avec mon travail, puis effectivement on rentre là-dedans comme on veut. Habituellement, il n'y a qu'un seul agent de sécurité, que c'est pas un constable spécial, c'est vraiment un agent de sécurité qui est là pour veiller au bon ordre des choses. Ça me fait penser aussi qu'on rentre à peu près dans nos écoles primaires et secondaires aussi facilement. Donc peut-être qu'en général, les mesures de sécurité dans nos établissements publics à travers la province devraient être revues, parce que là on parle des palais de justice, mais à quand on va avoir un drame, comme on le voit souvent aux États-Unis, dans une école primaire ou secondaire chez nous, puis va falloir rehausser. J'ai l'impression qu'on connaît les bonnes pratiques qui sont mises en place ailleurs, mais on tarde à les mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on se dit au Québec, ça n'arrive pas ou pas suffisamment souvent pour que ça justifie le coût?
Les solutions existent. Selon moi, au contraire, les coûts sont même très raisonnables. C'est une question de volonté, selon moi, politique, d'aller de l'avant. Je comprends qu'il y aura certains coûts reliés à ça, mais je vous dis, effectivement, les écoles, ça en est un autre danger, ça. On se souhaite qu'il n'arrive rien dans nos écoles, mais effectivement, des endroits publics où des gens peuvent accéder de façon sans aucune vérification, sans aucun filtrage, peut donner mauvaise intention à des gens de commettre des méfaits ou commettre des crimes graves. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut enlever cette perception-là qu'on peut rentrer dans les écoles ou dans les palais de justice comme on rentre dans un centre d'achat. Là.
Mm-hmm. Et comment ces demandes sont reçues de la part politique, justement, jusqu'à présent?
Ce que je comprends, c'est que deux ministères sont liés par ces demandes. C'est-à-dire que le ministère de Justice ainsi que le ministère de la Sécurité publique sont en communication. Tout ce qu'on leur demande, c'est, écoutez, peut-on avoir au moins, et pas juste pour nous, là, pour l'ensemble de la population, un plan concret, un échéancier concret de mise en œuvre de ces solutions qui existent. Comme je vous dis, c'est pas sorcier, là. Ça va rehausser de façon considérable la sécurité, mais il faut juste un échéancier, une volonté, un investissement de la part du ministère, des deux ministères, je veux dire. Et nous pensons qu'on va rehausser, même au niveau de la confiance du public envers nos institutions, que ce soit les palais ou les écoles, tout ça, va être rehaussé à la hausse.
En terminant, dernière question, M. Perales, la formation des constables spéciaux de vos membres que vous représentez, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle pourrait être revue également, cette formation-là, pour peut-être s'adapter aux réalités d'aujourd'hui?
Écoutez, on avait l'équivalent à peu près d'une formation que les policiers ont à Nicolet. C'est juste que dernièrement, on a revu à la baisse de 13 à 8 semaines. Et ça, on a dénoncé ça aussi. Encore une fois, on n'est pas d'accord. On pense qu'au contraire, encore pour une question de coût, des fois de budget, on se demande si ça vaut la peine. Vous comprenez? On avait une très bonne formation. Quand je vous dis, à l'École nationale de police, c'est quand même 13 semaines, c'est quand même assez longue, belle formation. C'est énormément, comment ça coûte de l'argent aux contribuables. Donc, c'est une belle formation, l'équivalent à peu près, comme je vous dis, de celle d'un policier, mis à part peut-être les patrouilles extérieures, parce que nous, notre travail est plus à l'intérieur. Mais je veux dire, le reste était similaire. Alors donc, on demande aujourd'hui au gouvernement de revenir peut-être aussi à une formation initiale de 13 semaines afin de justement même adapter peut-être certaines pratiques, justement, vu les gens, la clientèle que nous desservons. Peut-être, vous comprenez, les gens qui souffrent de maladies mentales, d'intoxication particulière, vous savez, peut-être aussi rajouter à la limite même une semaine concernant cette formation afin d'aborder cette clientèle de façon beaucoup plus sécuritaire et de façon à les aider aussi, ces gens-là, à les encadrer.
Écoutez, on continue à suivre, c'est ce que j'en comprends, ce dossier qui est loin d'être terminé. Les accusations qui pourraient être portées contre l'individu en question qui a attaqué un interprète du côté de Longueuil, et pour les mesures qui sont réclamées de votre part et d'autre part également. Donc, on va suivre ça avec attention. Monsieur Perales, le rappel, vous êtes le président des constables spéciaux du Québec. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, monsieur.
Et donc, fort intéressant, mais comme je disais, on va suivre la suite des choses pour voir qu'est-ce qui va arriver si ces mesures qui sont réclamées depuis des... Là, on n'a pas demandé à M. Perales, mais ça fait des années là, que c'est réclamé, ce genre de mesures. Donc, c'est un dossier à suivre. Dans les prochaines minutes, on reçoit Émilise Lessard-Terrien, l'écho porte-parole de Québec solidaire et les têtes passage en Outaouais le 27 janvier dernier. Et Kim Lacaille s'est entretenu avec elle. On vous présente ça dans un instant.